Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Galère 88.4 pour une nouvelle émission du Livre Ouvert. Nous allons aujourd'hui parler du lien entre littérature et art, un lien qui n'est pas nouveau puisque dès le Moyen-Âge, on trouve des peintures très très vives qui illustrent les manuscrits qu'on appelle des enluminures. Mais aujourd'hui, nous allons aborder ce lien entre littérature et art, un lien au sens où Leonora Miano l'entend, dans « Habiter la frontière ». Habiter la frontière est un recueil de conférences qu'elle a fait de 2009 à 2011 en France, aux États-Unis, au Danemark et au Brésil, qui a été publié en 2012 chez L'Arche, et l'une des conférences définit la notion de frontière. Pour Miano, une frontière n'est pas une rupture, mais un endroit où les mondes se touchent, une frontière qui évoque la relation, un lien à construire, un défi possible à relever, puisque habiter la frontière, c'est aussi habiter les identités frontalières que l'histoire, avec un grand H, nous a léguées. Alors pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Françoise Sémiramoth et Françoise Donadieu. Bonjour.
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 Alors, je vais vous présenter aux auditrices et aux auditeurs. Françoise Sémiramoth, vous êtes plasticienne guadeloupéenne et votre médium de prédilection est la peinture. Vous peignez sur des supports différents, sur papier, toile ou mur. Vous recherchez le lien entre la forme et la couleur, ou plus précisément, vous allez de la forme à la couleur ou de la couleur à la forme pour aboutir à une fascination de l'image fixe. En ce moment, vous réalisez un Caravage créole au sein de l'atelier Altiplano à Marseille, inspiré, comme votre titre le suggère, du peintre italien Caravage. Le projet aboutira à 30 tirages sérigraphiques de grand format et vous êtes soutenu par la Région Sud, le cabinet du Premier ministre avec la Délégation pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer, la Ville de Marseille et la DRAC PACA. Vous avez déjà exposé la maquette de ce Caravage créole à Marseille et vous exposerez sans doute ailleurs. Vous habitez Marseille et vous entamez votre troisième année de résidence au sein de l'école maternelle Claire Soleil avec Planète Émergence afin de créer un ensemble de fresques avec les élèves et les parents. Vous êtes intervenu en art plastique au lycée Nelson Mandela à Marseille en 2019 et vous interviendrez au lycée Nelson Mandela de Nantes en 2020. Vous avez formé en 2019 les étudiants de l'école de maquillage ATMA à Marseille et vous poursuivrez ces formations à Lyon, à l'école Fleur de Sel en 2020. Et enfin, pour les minots de Marseille qui souhaitent rencontrer Françoise Sémiramoth et peindre avec elle, vous serez en décembre à la Friche de la Belle de Mai dans le cadre des Petits Mercredis. Françoise Donadieu, vous étiez professeur de lettres classiques au lycée Lumière de La Ciotat. Vous êtes auteur de 3 livres, Zavatar le hasard et autres avatars, publiés en 2012, La dépossession, édité en 2013, et Histoire de Lily, comtesse pastrée, sortie en 2017 et dont on va parler aujourd'hui. Alors, comment tout cela a-t-il commencé? Au sein du lycée où vous enseignez, vous avez animé des ateliers de théâtre avec votre collègue d'art plastique et des troupes de théâtre professionnels qui ont abouti à une résidence artistique dont le but était de concevoir et de réaliser un spectacle associant danse, musique, théâtre et marionnettes. Vous en avez écrit les textes et cette expérience a orienté votre écriture, à savoir un goût pour la prose poétique et pour les formes brèves. Vous avez continué l'écriture en commençant par publier dans des revues, Café Vert, Revue des Archers, et vous faisiez partie des conseils de rédaction pendant une dizaine d'années. Vous avez collaboré avec les peintres André Guénoun et Marius Reich, qui a fait les illustrations d'ailleurs de Zavatar, le hasard et autres avatars, Louis Olive et Françoise Sémiramoth, ici présente. Alors, la question que je soulève ici, c'est comment vous vous êtes rencontrés. Est-ce que vous pouvez nous dire quand et comment est née cette rencontre et cette collaboration que vous menez depuis plusieurs années ?
C'est moi, donc, Françoise Donadieu, qui vais prendre la parole sur ce sujet, puisque c'est moi qui ai déclenché la collaboration. Donc la première vraie rencontre avec Françoise et Miramot, ça a été la rencontre avec une de ses œuvres, une petite sculpture qui était exposée à la galerie Red District. Donc cette petite sculpture, je peux la décrire, mais le souvenir est peut-être un souvenir écran parce que cela fait longtemps que je ne l'ai pas revue. Et pourtant, elle est encore enfin très fortement ancrée dans ma mémoire. Donc c'était une petite créature au corps noir, tassé, tendu, d'un noir vibrant, électrique. Et ce qui était surprenant, c'est qu'elle n'avait pas de tête. Et à la place de la tête, sortant de son cou, il y avait des crânes de baigneurs peints en rouge. Elle avait également des mains rouges. Et donc, cette rencontre a été pour moi d'une grande violence. Peut-être qu'elle reflétait la violence que Françoise avait connue dans une résidence, puisqu'elle avait créé cette sculpture dans une résidence en Algérie, et on était dans les années 90, c'est ça. Et bon, cet affect a été très violent. Je ne l'ai pas analysé sur le moment, mais pour moi, elle a été immédiatement l'expression d'une révolte radicale qui pour moi aussi a été celle d'un refus de la condition féminine. Donc quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu besoin d'exorciser cette violence, ce que je sentais comme une souffrance mais aussi comme une révolte. Et j'ai commencé à écrire et l'idée qui m'est venue, c'est celle d'Antigone, c'est-à-dire celle qui s'oppose à la loi que les hommes font et au monde qu'ils bâtissent. Donc pour rendre compte de justement de ce choc, je vais vous lire le texte que j'ai écrit, que j'ai envoyé à Françoise et qui a été le début de notre collaboration. La sans-visage avance, bras scellés au long du corps, noir, sans visage, debout, dressé, emmuré dans le noir, la sans-visage, immobile, elle avance, érigée dans ce lieu, droite Antigone noire, dressée contre, refusant tout visage, sans lieu, s'obstinant, s'entêtant, sans visage avançant immobile, demeurant. La sans visage marche, noire vibrante électrique, à sa place, hors lieu. Noire Antigone rouge, éclaboussée de rouge. Vivante Antigone archaïque, trouée, trouée de rouge, rouge laqué des grenades, fruit monstrueux du non-être, du non, sans lieu, sans nom, sans être, mais debout. Debout, droite, dressée, elle avance, sans faute, infaillible, debout, trouée. Tête noire sans yeux, trouée, vierge noire accouchée, sans fils, mais d'étranges bouquets. Antigone dit non et avance, vivante emmurée dans le noir, mais aimante.
Merci Françoise Donadieu pour cette belle lecture. Donc, quand vous avez reçu ça, Françoise Semiramoth, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, en fait, ça a été un choc parce que je ne connaissais pas Françoise à l'époque, ou si peu. Et je ne m'attendais pas du tout à ce texte, en fait, tout simplement. Et en fait, cette sculpture, donc elle est née de cette résidence que j'ai faite en Algérie et à Alger en 2007, avec l'association Rivage, qui a organisé cette résidence, donc des échanges entre des artistes algérois et algéroises et des artistes marseillais et marseillaises. Et une semaine après notre retour donc de cette résidence, il y a eu des attentats, il y a eu 50 morts en fait à Alger et dans un endroit où on passait. Et en fait, ça a été le déclencheur, on va dire, de cette sculpture. Et quand j'ai lu le texte de Françoise, ça a été, en fait, elle a résumé tout ce que j'ai voulu dire à travers cette œuvre. Elle a résumé avec les mots. Et je me suis dit, aimant déjà la littérature, c'est la force des mots. Et en fait, moi, je crée des choses plastiques, on va dire entre guillemets, qui ont des formes, avec les couleurs sur les toiles, les dessins, les murs, etc. Mais pour véritablement, ma démarche, véritablement pour que ça touche le public, j'aime y associer des mots, et des mots assez puissants. Et c'est, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé, en fait, je cherchais l'écrivaine, une des écrivaines avec qui je pouvais collaborer à ce moment-là. Et j'ai trouvé en Françoise, justement, la personne qui arrivait à mettre les mots sur ces formes que je créais, tout simplement.
D'accord, merci. On va écouter un morceau de musique.
Express yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do, whatever you do, 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 Lord, Lord, do it good. All right. It's not what you look like when you're doing what you're doing. It's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself. Express yourself. Everybody on the floor now, jumping like a kangaroo. So let the horn do the thing they do, y'all. Bop, 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 bop.
Vous êtes sur Radio Galère 88.4 dans l'émission Le Livre Ouvert. Nous venons d'écouter Charles White and the Watts et j'accueille aujourd'hui Françoise Semiramoth, artiste plasticienne, et Françoise Donadieu, écrivaine. Alors, Françoise Semiramoth, vous avez l'habitude de travailler avec des écrivaines et vous avez, par exemple, collaboré avec Maryse Condé, notre prix Nobel de l'an dernier que nous saluons, de 2009 à 2016 sur un livre pour enfants qui s'intitule « Chien fou dans la brousse ». Et le projet alliait les arts visuels, les arts vivants et la littérature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce projet?
En fait, c'était une demande de la part de Maryse Condé. Et c'est un livre qui s'adresse auprès du jeune public et qui relate en fait la déportation de jumeaux du Mali pendant la traite négrière. Et en fait, lorsque Maryse m'a proposé de lire ce livre, tout de suite, il m'est venu à l'esprit de faire un travail de transmission avec le jeune public. Donc, nous avons travaillé avec quatre structures à Marseille, le comité Maméga, la collective, l'association Mamanté, la compagnie Le Rêve de la Soie, pour mettre en place, durant ces 6 années, tout un travail artistique qui concerne notamment les arts visuels, la danse, la littérature, la musique, etc. Et ce projet, en fait, s'est terminé au sein du Memorial Act en Guadeloupe en 2016, pour présenter en fait un travail transversal entre la réalisation de travaux des élèves du collège Richard Samuel à Gourbert en Guadeloupe et le travail des enfants qui ont suivi ce travail, enfin cette création pendant 6 ans à Marseille. Et ce travail de transmission, en fait, c'est quelque chose que j'aime bien mettre en place. Et cette année, nous allons travailler au sein du lycée Nelson Mandela à Marseille, avec donc Françoise Donadieu, sur son dernier ouvrage, sur Lily Pastret, la dame de Montredon. Donc en fait, il va y avoir tout un travail déjà de lecture et puis de découverte de ce livre sur Lily Pastret, qui est une des figures emblématiques tout de même de Marseille. Et en collaboration avec la professeure de français Nadine Christiani, nous allons donc étudier ce livre et à l'issue de ce livre vont sortir, on va dire, des œuvres plastiques. Voilà, durant toute l'année, on commence la semaine prochaine et nous terminerons en 2020.
Alors, ce qui ressort aussi de tout ça, c'est que vous avez l'habitude de travailler donc avec les écrivaines, mais surtout vous les inspirez. Et donc j'ai été notamment agréablement surprise de découvrir.
Et moi aussi.
De découvrir dans Habiter la frontière, donc de Leonora Miano, un passage qui retrace la question de la frontière identitaire à travers vos peintures. Et elle y parle de peintures. L'une, c'est What Are You Afraid Of, une toile que vous avez faite en 2009 lors du débat sur l'identité. Et Tête de Nègre, une série de têtes que vous avez déclinées en lithographie, puis marouflées et rehaussées sur toile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux œuvres?
En fait, alors on essaye de se remettre 10 ans en arrière. ça fait un petit moment déjà, voilà, il y avait tout un débat sur l'identité, cette appartenance qu'on doit avoir avec un territoire ou pas. Finalement, 10 ans plus tard, on sent que ça recommence. De toute façon, je crois que ça ne s'arrête jamais, finalement, ce débat sur l'identité. Et à l'issue de ça, je me suis dit, bon, il faut arriver à exprimer quelque chose, comme disait la chanson précédemment « Express Yourself ». Et donc, j'ai créé cette toile « What are you afraid of ?» Et au même moment, une petite anecdote, je vendais des bonbons à la foire de Marseille. Et dans ces bonbons, il y avait les fameux bonbons tête de nègre Et donc, en me voyant, les gens avaient du mal, finalement, à prononcer le nom de ces bonbons. Et je les mettais face à ces bonbons et je leur disais, dites-moi de quoi il s'agissait exactement. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, je veux ces bonbons-là. Oui, mais ils ont un nom, ces bonbons. Donc, ils prononçaient, on avait l'impression que c'était un mot interdit, nègre, donc tête de nègre. Et ils prononçaient le nom de ce bonbon et ils achetaient 100 grammes de tête de nègre, 200 grammes de tête de nègre, etc. Je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais créer une œuvre à partir de ces bonbons. Donc en fait, je les ai déclinés en lithographie et puis après, je les ai marouflés sur toile. Et on a eu l'opportunité avec Françoise Donadieu de faire une exposition à La Tangente, à la galerie La Tangente, qui se trouvait dans le marché Opus de Marseille. Et l'idée, en fait, c'était de donner voix, encore une fois, de donner une voix et la parole à ces têtes de nègres qui étaient... finalement muette. Et de ces têtes de nègres sont nés des textes que Françoise a écrits, un peu comme des sortes d'haïkus, en fait, des textes très, très, très brefs, très vifs, et qui donnaient leur impact, on va dire, qui donnaient l'impact et la puissance à ces œuvres. Donc, nous allons lire ces textes.
Qui s'intitulent « Tête ».
Voilà.
J'en profite pour dire que cette exposition à La Tangente était une coïncidence remarquable. Justement, le nom même de la galerie disait qu'il y avait un point de rencontre entre nous, un point de rencontre étonnant puisque nous ne nous ressemblons pas. Hein. Moi, je suis blanche, plus âgée. Je n'ai pas la même expérience. Et évidemment, il y a pourtant, à un moment donné, quelque chose qui se noue entre nous et qui s'oppose aux catégories identitaires figées. Donc, lecture. Née de la pierre et du sang noir, têtes oubliées, forecloses, déniées, encloses dans les trois couleurs de la cage, c'est quatre fois le même nom.
Enchâssé au vitrail, celui des cathédrales, la tête dénigrée, auréolée d'azur, d'or et de gueule, ou bien de flammes. Je me souviens des incendies, c'est chaque fois la même haine.
Tête coupée, tête jetée, tournoie sur les villages blancs, revenant, revenant, gueule cassée des autres guerres. Combien de fois les mêmes morts ?
Squelette, vieux squelette, remisé au placard, soudain oiseau criard dans le noir du placard, et c'est deux fois le même cri.
Tête brûlée, l'ardeur du rouge, ou baptisée, si bleue, si calme, la même bouche, les mêmes dents, même stupeur.
C'est sur un mur méconnaissable comme un graffiti innommable, une marque de sang et de mort, la même terreur dans les yeux.
Tête attaquée par les acides, vitriolée, coloriée, étrangement apprivoisée. Même les cages se délitent. Où est la tête de nègre ?
Merci à vous deux. Miano, ensuite, dans Habiter la frontière, parle des figures pour mémoire, des figures noires importantes qui ont participé à la grande histoire dont on ne parle pas ou très peu. Elle les appelle les enfants de Marianne passés sous silence et à qui on a donné, par exemple, qu'un nom de rue. Et elle fait allusion donc à l'éducation nationale en France. Donc je parle aussi à l'ancienne professeure Françoise Donadieu. L'éducation nationale qui n'en parle pas car elles sont noires et politiquement incorrectes. Donc elle propose de faire entrer ces héros noirs dans l'imaginaire collectif au même titre que les autres. Et elle remet ainsi en mémoire alors Jean-Baptiste Bellé, le chevalier de Saint-Georges, le général Dumas, Louis Delgré, la mulâtresse Solitude, André Aliker, Paulette Nordal et René Maran. Alors, je voudrais savoir un peu ce qu'évoquent ces noms pour vous, vous deux. Alors, vous, Françoise Semiramoth, par rapport à cette frontière identitaire, et vous, Françoise Donadieu, par rapport au fait que l'éducation nationale pourrait, voilà, selon Noyau, un travail pourrait être fait. Et est-ce que vous, vous le faites aussi au sein de vos ateliers que vous organisez ou vos formations, une action pédagogique, pluridisciplinaire et citoyenne, hein, à partir d'images positives d'héroïnes et ou d'héros noirs?
Bah, déjà, je vais prendre le Chevalier de Saint-Georges. En fait, ce Chevalier de Saint-Georges est surnommé le Mozart noir. Il faut savoir en fait que c'était un génie de musique classique, entre autres, hein. Je vais la faire très courte parce qu'on pourrait faire un film sur son histoire.
Sur tous même.
Oui, sur tous. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que son nom a été réhabilité en Guadeloupe. Il y a vraiment une démarche en fait en Guadeloupe, étant guadeloupéenne, donc je peux parler de la Guadeloupe un peu mieux. Il y a vraiment une démarche en Guadeloupe de réhabiliter leurs héros et héroïnes. Et en fait, il y a tout un programme autour du travail du Chevalier Saint-Georges. Il y a même un festival de musique classique en Guadeloupe qui se passe tous les ans sur le Chevalier Saint-Georges. Il faut savoir qu'en fait, cet homme est issu en fait d'une... En fait, il est né d'une mère esclave et d'un père blanc. Et en fait, il va connaître pas mal d'aventures et de mésaventures. Mais son génie, en fait, laissera une trace dans l'histoire de la musique. Je ne pense pas qu'en France hexagonale, beaucoup de personnes qui pratiquent la musique classique ou une personne lambda connaissent très bien l'œuvre du Chevalier de Saint-Georges. Pour répondre à votre question, Sabine, en fait, dans le travail que je peux faire en tant que plasticienne, je m'adresse à tout le monde. Et lorsque je m'adresse à tout le monde, j'introduis dans mon propos artistique toujours une notion de la diversité, de la différence dans mon travail. C'est-à-dire, par exemple, quand on va me demander de travailler sur, je ne sais pas moi, de la peinture moderne, pas contemporaine, moderne, je vais aller chercher dans l'histoire de l'art une peintre ou un peintre qui a une résonance par rapport à mon identité, sur mon identité.
Donc comme le Caravage.
Comme le Caravage. Voilà. Il y a des gens, par exemple, qui me disent « Oui, on est assez surpris de voir que tu t'intéresses au Caravage. » Mais pour quelle raison? Parce que je suis guadeloupéenne, donc je n'aurai pas de crédibilité par
mais
rapport
l'identité,
à...
l'identité, c'est des ajouts, en fait.
Voilà. Et je suis peintre avant d'être guadeloupéenne. Donc, je m'intéresse à mon histoire de l'art qui parle aussi du Caravage. Et le Caravage, pour moi, est un de mes maîtres à penser parce que c'est un des peintres qui m'inspire le plus véritablement. C'est le peintre qui a révolutionné, à mes yeux, un des peintres qui a révolutionné la peinture à l'époque du baroque primitif. C'est un peintre italien du XVIIe siècle, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et en fait, son clair-obscur m'illumine. Et me donne véritablement envie d'aller beaucoup plus loin dans mon travail. Et c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment, justement, dans ce projet de sérigraphie monumentale au sein de l'atelier Altiplano à Marseille. Et donc, en fait, je croise les influences, je croise... c'est mon devoir en tant qu'artiste de croiser quelqu'un comme le Caravage, de le transposer dans un univers végétal luxuriant qui est celui de l'île où je suis née, la Guadeloupe, et de partager en fait cette transversalité avec le public. Et de cette transversalité, il va y avoir un discours et un dialogue qui va s'établir entre publics divers et variés qui ne me ressemblent pas nécessairement, mais qui aussi peut me ressembler.
Il est un peu difficile pour moi de parler de ces figures-là, je vais vous expliquer pour deux raisons. D'abord, la question de l'enseignement, nous en sommes bien d'accord. Moi, j'ai quitté l'enseignement depuis assez longtemps et il n'a jamais été question d'avoir, disons, une grande place à donner à ces figures ou même d'ailleurs à des écrivains. Dans les programmes que moi j'ai suivis, mais il faut dire que j'ai toujours enseigné au niveau du secondaire, c'est-à-dire première et terminale. Hein. Et donc cela ne se posait pas. La deuxième raison qui me fait hésiter à prendre vraiment la parole sur ce sujet, c'est justement un texte que vous avez cité, qui est La Mulâtresse Solitude, qui est un des plus beaux romans que j'ai jamais lu et qui m'a introduit justement à, disons, à l'horreur de cette condition d'esclave. Mais je pense que vous savez que Schwarzbart a été extrêmement critiqué pour avoir osé s'occuper de cette figure-là qui ne lui appartenait pas. Alors on va pas entrer dans le détail de ces débats, ça nous entraînerait trop loin. Et je préférerais justement reprendre la parole de Françoise, puisque c'est dans ce sens que nous avons travaillé toujours ensemble. Nous avons fait un travail qui s'appelait Faces, où nous étions face à face, et où moi j'ai écrit des textes sur Françoise et sur la Guadeloupe, que j'avais découverte aussi, Louis Delgré en particulier d'ailleurs, et j'ai essayé de me poser la question de toutes les représentations factices que j'avais, qui pouvaient aller d'ailleurs de l'exotisme, du fantasme, aux préjugés que je ne connaissais même pas en moi. Et donc ce travail avec Françoise, il est un travail qui me permet aussi de progresser moi-même sur le sujet de l'identité. Et ce que j'en ai conclu, c'est ce qu'elle réclame, c'est-à-dire qu'une identité, ça s'invente chaque jour, c'est multiple, on la choisit. Et pour finir, eh bien, j'aimerais lire un extrait du texte que j'ai écrit pour Françoise, pour le travail qu'elle a fait sur le Caravage. Il y a un texte qui s'appelle « Il, le peintre » et qui est sur le Caravage, et un texte qui s'appelle « Elle, la peintre » et qui est sur Françoise. C'est elle qui parle. Je ne sais plus qui m'a dit, ou est-ce moi à moi-même. L'important n'est pas qui tu es, tu ne le sauras jamais, et Narcisse devait mourir s'il parvenait à se connaître. L'important est ce qu'on te fait, ce qu'on fait à toi ou de toi, sous le prétexte de ta peau, de ta façon de dire les mots, du lieu d'où tu t'origines, de l'argent que tu as en poche, de qui tu aimes, de la personne qu'un jour tu veux être, toi qui changeras demain. Alors je me suis choisie. Nul ne pourrait m'empêcher de peindre. Toute la peinture du monde était à moi si je voulais. Nul ne pouvait m'enlever le droit d'aimer les Caravages que tant de fois j'ai vus au Louvre et que la foule est pour déesse une Joconde plutôt que la statue d'un sculpteur africain ne me forçait pas à cracher sur les grands maîtres italiens. Ma première exposition, c'est mon père qui me l'a offerte. J'ai signé mes toiles à une casse mêlant l'Afrique et les Antilles. Maintenant, je suis Semiramoth, deuxième de la dynastie. C'est ainsi qu'Artemisia signait aussi Gentileschi. Semiramoth, le nom du père, dont l'origine est incertaine. Je peins à partir des images, celles qui m'ont fait du mal, des têtes de nègres hirsutes ou celui qui a la banane, et celles qui me font du bien, Manet, Caravage, Scorsese et Cronenberg, ou les photos de ce que j'aime. Je fusionne, je mixe, je métamorphose, je suis la peintre transformiste, rien de beau ne m'est étranger. J'ai peint Narcisse à la fontaine et je lui ai mis sur l'épaule un papillon prêt à l'envol. Je n'avais pas lu le roman qui raconte que sur ordre de l'Inquisition, on marqua le Caravage à l'épaule d'une infâme fleur de chardon. Maintenant, je peins ces garçons au milieu des palmes d'un monde qu'il n'a pas connu, une jungle de paradis où l'on exporta l'infamie, l'infamie et les punitions, la haine et les dominations.
Merci Françoise Donadieu pour ce beau texte. Je vois que Françoise est très émue. On va écouter un petit morceau de musique. Vous êtes sur Radio Galère 88.4 dans l'émission Le Livre Ouvert. Nous venons d'écouter Mélissa Lavaux et j'accueille aujourd'hui Françoise Sémiramotte, artiste plasticienne, et Françoise Donadieu, écrivaine. Alors Françoise Donadieu, vous aussi, vous travaillez sur la question de la frontière et celle notamment de la réalité et de l'imaginaire que l'on retrouve dans votre livre. Donc, qui est sorti en 2017, qui s'appelle « Histoire de Lily, comtesse Pastrée, la dame de Mondredon », une sorte de sous-titre. Et ce livre trace le destin, ou plutôt le chemin, j'ai envie de dire, de la comtesse Pastrée qui a protégé, sauvé les artistes lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous dites de ce livre qu'il est une fiction véritable. Je vous cite « J'ai écouté en moi les voix qui me parlaient d'elle. La sienne s'est mêlée aux autres et ce qu'elles m'ont raconté, pour n'être pas avéré, a tissé peu à peu une fiction véritable. » Quel est ce lien que vous établissez entre voix et fiction ?
Eh bien, une fiction, en fait, c'est une fabrication, comme son nom l'indique. Et dans le cas d'un texte, on peut dire que c'est du tissage. Hein. Un texte, c'est un tissu, bien sûr. Donc, il y a une trame. Et puis, après, on peut tirer tous les fils qu'on veut. Donc, il y a un récit premier, mais il peut y avoir des récits secondaires, des personnages principaux, mais aussi des personnages secondaires, etc. Ça, c'est le travail de l'invention et de la composition. Mais pour que cette fiction soit vivante, il faut qu'elle s'incarne. Le texte passe évidemment par les mots, et les mots n'ont pas de chair, mais évidemment ils ont une voix, puisqu'ils s'appellent justement des vocables. Donc il faut qu'on les entende. Et moi je suis d'une génération qui a été nourrie à la théorie du roman polyphonique selon Bakhtine, et je pense donc qu'une fiction romanesque est passionnante quand elle fait entendre des voix différentes, c'est-à-dire quand les personnages, mais même le narrateur, a sa voix spécifique. Donc, j'ai travaillé, en effet, à donner plusieurs voix à ce texte. Et il y a donc plusieurs personnages qui s'expriment en tant que tels. Alors j'ai eu de la chance parce que certains sont des écrivains comme Marie-Laure de Noailles ou Luc Dietrich, ou René Crevel. J'ai donc lu leurs textes pour essayer d'imiter. Et puis pour ceux qui ne s'étaient jamais exprimés, comme l'arrière-grand-mère par exemple de Lily, Anne-Rosine Noailly-Pratt, eh bien j'ai inventé sa voix.
C'est sublime passage, si je peux me permettre.
C'était un sacré personnage et c'était certainement à elle que ressemblait le plus Lily, bien sûr. Voilà.
Est-ce que vous voulez nous
donner un exemple de ces voix? Alors, eh bien, il y a la voix de Lily, justement, que j'ai un peu créée à partir des quelques lettres que nous avons d'elle. C'est très peu, bien sûr, comme matériau. Et je l'ai fait entendre dans des espèces de lettres, mais posthumes, qu'elle adresse à son frère, qui est mort à la bataille de la Somme, en 1916, et qui est mort donc à 27 ans, un frère qu'elle adorait, cette mort, sans doute, elle ne s'en est jamais remise. Lily, octobre 1969. Montredon. Vois-tu, Maurice, j'ai toujours eu du mal avec les corps, avec le mien d'abord. Pas au début, évidemment, quand nous étions petits et que nous allions nager à la Pointe Rouge. Mais j'ai grandi, beaucoup, et vite, et à tous les sens du terme. Mon corps m'est devenu étranger. Même à toi qui es maintenant une âme asexuée, je ne peux raconter mes malaises de jeune fille. Personne ne me parlait. Ce que je savais d'un corps féminin était à peu près rien. Et comment faire pour que ce grand corps devienne féminin? Il y avait les revues de mode, je m'efforçais de copier les jolies figures de Fémina, mais la chair, ma chair, et à l'intérieur mes organes, comment pouvais-je m'en accommoder? Mon corps tenait debout, bien musclé, bien droit, bien éduqué. Et à l'intérieur, c'était le chaos. J'étais incapable de savoir d'un instinct sûr comment je pourrais l'adapter aux événements inattendus qui l'assaillaient. Sans doute as-tu aimé, Maurice, avant de perdre la lumière. Je veux dire, j'espère que tu as connu le corps des femmes, leurs baisers, leurs désirs. Tu ne m'en as jamais fait confidence. Cela ne se faisait pas et jamais je n'aurais pu penser à toi comme à un homme. Tu étais mon frère. Ton corps et celui des autres jeunes gens étaient un corps vêtu, invisible, dans les habits de bal, ou un corps de sportif embelli par l'effort, un corps à admirer, mais un corps interdit. L'amour, c'était les étranges douceurs que j'avais découvertes en lisant Delhi, et il fallait que je connaisse le corps de Jean, mon mari, alors que j'étais tellement ignorante. Je crois être allée vers le lit conjugal en robe d'intérieur brodée de fil d'or. Dessous, par transparence, on devinait un long fourreau de soie beige rosé. Et je ne sentais rien, ne désirais rien. J'avais simplement peur de le décevoir, lui qui m'avait accepté. Je voulais qu'il soit content de moi. Je n'ai aucun souvenir de cette nuit-là, aucun souvenir de mon corps vivant. J'étais amoureuse de sa bouche aux lèvres gonflées, de ses yeux très noirs, au regard un peu fixe, de son élégance, de sa courtoisie. Mais le désir que j'avais de son corps, je ne l'ai jamais montré. Je n'ai jamais pu m'y abandonner. Peut-être même l'ai-je imaginé. J'étais heureuse quand il venait à moi, mais il était sans emportement et moi sans ressources. Est-ce pour cela que je l'ai perdu ?
Merci Françoise Donadieu. Alors voilà ce personnage de Lily hein, qui parle de son intimité et qui, sa grande particularité, c'est qu'elle aime l'art et qu'elle accueille chez elle des musiciens, des écrivains, des poètes, des peintres. Voilà, notamment, on écoute aussi en tapis de votre lecture Clara Askill, qui est une pianiste hein, qui a sauvé Lily Pastré, hein, puisqu'elle l'a emmenée à l'hôpital à un moment tragique que vous racontez d'ailleurs dans le livre, qui l'a accueillie aussi plusieurs fois chez elle puisqu'elle était en danger. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le personnage de Clara Askill, et est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu du climat qui régnait à cette époque de Seconde Guerre mondiale?
Eh bien, je vais commencer par le climat et je finirai par Clara. Comme ça, s'il nous reste un petit peu de temps, je pourrais lire un petit texte à propos de Clara. Alors, le climat qui règne à Marseille entre 1940 et 1942 est un climat très étrange, un climat qui est à la fois agité, très inquiet, puisque beaucoup d'intellectuels et d'artistes sont réfugiés à Marseille en attente d'un visa pour partir en particulier en Amérique, du Sud comme du Nord. Et ces gens-là, évidemment, sont dans une grande anxiété. Il y a des possibilités de départ, et quelqu'un comme Varian Fry, qui a été envoyé par une association américaine, fait tout son possible pour obtenir des visas et le passage sur le bateau. Mais cette zone de transit, comme l'a appelée Anna Segers, qui a écrit un roman magnifique sur cette période, est tout de même aussi une nasse, hein, parce que si on ne part pas, on est bloqué là, et c'est ce qui va arriver à certains d'entre eux. Donc c'est un climat d'inquiétude, mais c'est aussi un climat extrêmement stimulant. Parce que Marseille a dû être à cette période une espèce de capitale intellectuelle et culturelle remarquable. Il y avait, je peux citer des noms, mais il y en a tellement que...
Il y en a beaucoup.
Tous mais bon, aussi bien Lévi-Strauss est passé par là, Walter Benjamin, Simone Veil, la philosophe. Mais il y a les écrivains comme André Breton, par exemple, Victor Serge, qui sont à la Villa Herbel. Il y a Wilfred Olam, justement, puisque l'on parle... j'ai écrit un texte qui s'appelle... qui parle de la jungle de l'âme, et puis André Masson, Max Ernst, Victor Brunner, enfin on n'en finirait pas. Hein. Et donc ces gens-là, justement pour tromper l'inquiétude, vivent ensemble, se réunissent souvent, et ils peuvent se réunir chez la peine. Une comtesse Pastré qui a table ouverte, qui propose des dîners à 20 ou 30 personnes tous les jours, alors que nous sommes en période de rationnement. Hein, donc c'est vous dire ce qu'elle a dû faire pour tenir cela. Ils échangent, ils discutent et même ils créent d'ailleurs pour échapper à l'inquiétude, puisque le fameux jeu de tarot de Marseille a été inventé à la Villa Herbel par André Breton et ses amis.
Et si je peux me permettre, notamment un soir, il y a Clara Askill qui va jouer divinement bien, c'est raconté dans le livre, et cette pianiste là qui éblouit tout le monde, et même elle le dit, j'ai particulièrement bien joué ce soir. Est-ce que ce climat justement doit se ressentir dans l'art, mais c'est de manière très subtile, hein, vous témoignez
bien
de ça.
Sûr, bien sûr, puisque André Breton a écrit Fata Morgana à la Villa Herbel, hein. Donc je pense que ça a été pour les Marseillais qui ont eu la chance, parce que nous parlons tout de même de privilégiés là, à la fois les privilégiés qui vont pouvoir partir partir parce qu'ils ont l'argent du passage, hein, c'est toujours pareil. Et les privilégiés qui ont vécu en contact avec ces artistes pendant toute cette période, c'est-à-dire les aristocrates, les grands bourgeois comme Lily. Donc, si il est vrai que il s'est passé comme cela des choses extraordinaires, je peux citer juste pour finir le grand spectacle que Lily Pastré va donner à la campagne Pastré, qui associe des tas d'artistes justement venus là, et en particulier d'ailleurs la musique va être jouée sous la direction de Manuel Rosenthal, qui est un juif, et avec l'orchestre national de radiodiffusion française qui repliait Marseille, parce que de la même façon que je viens de le dire, il y a beaucoup de juifs dans l'orchestre. Donc voilà, c'est en effet un moment de création particulière et remarquable. Et si il reste peu de temps...
Oui, juste, moi j'avais une dernière question à vous poser, hein, qui est peut-être un peu personnelle, mais en tout cas, j'ai été agréablement surprise par cette notion d'hospitalité. Voilà, ça m'a particulièrement touchée, cette femme, finalement, qu'on connaît comme ça, Campagne Pastré à Marseille. Mais toute cette notion d'hospitalité où elle est tout le temps en train de dire « je veux faire du bien, je veux donner », c'est un leitmotiv presque dans le... Voilà, en creux, comme ça, on voit évoluer Lily.
Oui, je pense qu'elle est à la fois, elle représente à la fois une tradition tout de même, hein, dont on peut parler, qui caractérise son milieu, hein, qui lui vient d'ailleurs de Anorosine, hein, c'est-à-dire des aristocrates fortunés, et qui ont toujours essayé tout de même de pratiquer le mécénat. Et il y avait à Paris, comme ça, la princesse de Polignac qui a protégé Clara Skill, etc. Donc, disons que c'est une tradition de son milieu, mais elle l'a appliquée en prenant des risques à ce moment-là, hein, puisqu'elle abrite chez elle des juifs, elle abrite un résistant qui est Rudolf Kundera, un peintre. Donc certains pensent que c'était parce qu'elle était inconsciente. Je pense que ce n'était pas possible d'être inconsciente des risques qu'elle prenait, même si quelque part elle devait être un petit peu protégée parce qu'elle avait une certaine notoriété à Marseille, une certaine influence. Voilà, si vous voulez, je peux finir justement sur...
En lisant un passage.
Voilà, sur Clara, dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais dont il faut dire qu'elle était justement d'origine roumaine et juive, qu'elle était apatride, qu'elle n'avait aucun statut, donc, et qu'elle était excessivement menacée à cette période-là. C'est Yura Guler, une autre pianiste juive d'ailleurs, qui vit à demeure à Montredon, qui est une grande amie de Lily Pastré, et qui a demandé à Lily d'héberger Clara. Yura sait bien que Lily est incapable de refuser de l'aide à qui la réclame, et surtout pas aux êtres fragiles. J'apprendrai plus tard de sa bouche l'histoire de Clara, l'enfant prodige, l'émigrée roumaine, que le public français n'adopte pas. Clara, brisée à 19 ans par le traitement insensé que lui a infligé un médecin pour une scoliose déformante. Et puis, comment Lily peut-elle abandonner une musicienne ? Lily avec ses airs de reine, sait-elle seulement dire non ? Clara est arrivée, je ne l'ai pas d'abord reconnue. Yura avait montré deux photos d'elle qu'elle gardait d'elle, deux images bien différentes. L'une en adolescente rêveuse, de longs doigts posés sur les touches de piano, les cheveux noirs en nattes épaisses, une frange sur le front, et l'autre, en jeune femme, coiffée d'une casquette, qui regarde crânement l'objectif, mais le sourire est à peine esquissé. J'avais hâte de la rencontrer. Celle qui s'est présentée à moi en tendant une main blanche et fine ne semble ni rêveuse, ni provocante. Je ne sais comment l'accueillir quand ma mère survient et me sauve. Le sourire de bienveillance sincère qui éclaire ses yeux suffisent à apaiser l'invité. Je n'ai pas parlé vraiment avec Clara. Elle n'encourage pas les confidences, encore moins les banalités. Elle a le même âge que Yura, 45 ans, je pense, mais comme elle semble avoir renoncé à toute séduction, elle est pour moi une très vieille dame. L'ange annoncé ne se révèle que quand elle joue. Elle l'a fait sans qu'on la supplie, à la première demande, heureuse de se mettre au piano devant un petit groupe qu'elle sentait amical. Ma mère a félicité Clara avec des mots simples qui ont paru la toucher et toujours efficace, a mis un point au point, un plan de survie. D'abord obtenir un permis de séjour, puis trouver un logement. Clara ne pourra rester longtemps à Montredon trop peuplé et envisager une série de concerts. Notre pianiste n'est pas allée dîner à la cuisine comme elle le faisait chez la princesse Polignac. Elle s'est détendue au point de s'amuser des échanges piquants entre Yura et Lily. Mais tous les efforts ont été vains, pas de permis de séjour. Clara est partie ce matin pour Cannes, mais elle reviendra. Ma mère s'y est engagée.
Pas, il faut oublier tout le soulier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfuirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dont n'a plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir au ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas.
C'était Nina Simone qui reprend Brel. Quelle magnifique interprétation de l'éclatement des frontières. Bon, mais nous sommes déjà à la fin de l'émission Le Livre Ouvert. Je remercie Françoise Sémiramoth et Françoise Donadieu d'être venues aujourd'hui parler du lien que vous entretenez. J'espère que votre belle collaboration perdurera. D'ailleurs, il y aura une exposition du Caravage qu'on essaiera de dire dans les prochaines émissions.
Voilà. Prochainement. On doit livrer le projet, on va dire, en décembre. Au sein de l'atelier Altiplano. Donc voilà, c'est en cours, on termine et on travaille.
Et Françoise Donadieu lira peut-être ses textes.
Certainement.
Certainement, dans l'exposition. Donc nous serons là. Je remercie Sidi à la technique. Je remercie les auditrices et les auditeurs que je retrouve le jeudi 5 décembre pour une émission sur le corps et l'altérité dans la littérature amérindienne et littérature du voyage au XVIIe siècle. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois de novembre. Et je fais de grosses bises à Marjolaine, qui normalement est mon acolyte de la radio, qui est partie en Allemagne pour quelques mois. Au revoir à toutes
et
à tous.